Hello, bienvenue sur Jeune Pousse, le podcast créé par trois jeunes ambitieuses où tu découvriras le monde de l'entrepreneuriat. Moi c'est Salomé, je coach des jeunes entrepreneurs et je suis accompagnée de Lola et Carla.
Salut, moi c'est Lola et je suis étudiante en marketing.
Bonjour, c'est Carla, professeure de management à HEC. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Quentin sur Jeune Pousse. Avant de commencer, on va le laisser se présenter.
Bonjour, je m'appelle Quentin Alâtre, j'ai 24 ans et je suis co-gérant de Vibe Agency, une agence de web marketing.
Bienvenue à toi Quentin. Donc, comme vous avez pu le comprendre, nous avons invité un jeune entrepreneur pour qu'il te partage son expérience personnelle dans le monde de l'entrepreneuriat, mais aussi ses conseils pour se lancer.
Du coup Quentin, avant de devenir entrepreneur, tu étais dans quel cursus? Tu peux nous parler un peu de tes études?
Alors j'ai commencé en faisant un bac économique et social. Après, j'ai voulu rester dans le même domaine, mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc, pour m'orienter, j'ai choisi quelque chose de généraliste avec un DUT à Lyon. C'est un DUT GACO, gestion administrative et commerciale des organisations. Pendant ce DUT, j'ai eu la chance de pouvoir faire un semestre au Canada. Donc, j'y suis allé. C'était 6 mois où vraiment j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. C'était tout le côté digital. J'ai découvert une passion pour le voyage. Du coup, quand je suis rentré en France avec une envie, c'était de repartir. J'ai un peu laissé mes études de côté pour me consacrer à un tour d'Europe humanitaire. La licence pro où j'étais pris, j'ai pas trouvé d'alternance. Et je me suis inscrit à une autre école dans la com qui correspondait pas à mes attentes. J'ai vu que j'allais rien apprendre sur l'année, donc j'ai préféré arrêter un an, travailler en attendant de reprendre les études. Et c'est là que j'ai découvert l'ESSEN, qui est une école de commerce digital, où j'ai fini mon bachelor et après j'ai enchaîné avec le master.
Ah oui, donc t'as quand même un parcours assez atypique. Je vois que t'as fait plusieurs cursus différents et beaucoup de voyages. Ça devait être super intéressant de voir autant de choses en si peu d'années. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Si c'était à refaire, tu le referais ou est-ce qu'il y a des choix que tu regrettes dans ton parcours?
Du coup, si c'était à refaire, je ferais tout pareil. Je regrette aucunement mes voyages. C'est vraiment là où j'ai le plus appris, même si ça m'a, entre guillemets, fait perdre un an de cursus scolaire. Ça m'a permis de rencontrer énormément de gens, énormément de cultures et c'est là où j'ai vraiment grandi et je suis devenu qui je suis aujourd'hui. Et on peut vraiment penser que j'ai perdu un an vraiment avec le fait d'arrêter l'école. Mais si c'est à refaire, je le ferai, encore une fois, je le dis, parce que ça m'a permis du coup de découvrir d'autres personnes avec qui maintenant je travaille au quotidien, que j'aurais peut-être jamais connu si j'avais pas fait cette erreur, entre guillemets. Après, j'aurais peut-être rencontré d'autres gens si j'avais pas fait ça, mais je suis vraiment content du coup du parcours que j'ai fait pour l'instant.
Oui, c'est vrai que c'est quand même super enrichissant d'avoir fait plusieurs expériences, notamment le voyage. Du coup, on voit quand même que tu es dans le monde du web marketing, donc c'est quand même un domaine qui te plaît bien. Du coup, aujourd'hui, donc tu es un entrepreneur et puis aussi un jeune diplômé, faut pas l'oublier, mais à quel moment tu as pris cette décision de te lancer à ton compte?
Alors, la décision de me lancer à mon compte, ça m'a un peu tombé dessus, on va dire, au début. Pendant mon DUT, j'ai fait un stage dans mon club de foot,
ouais.
Où j'avais mis en place des actions marketing avec des maquettes pour faire un site internet, mais j'avais pas du tout les compétences pour faire le site. Après, il s'est trouvé que quand je suis rentré à l'ESSEN, j'ai eu les compétences pour faire des sites. Et c'est le moment où mon club m'a relancé pour savoir si je savais faire des sites. Et donc, j'ai dit oui, c'est bon, je sais faire. Mais il fallait que je sois déclaré en auto-entrepreneur pour légalement pouvoir travailler.
Oui.
Donc, du coup, je me suis lancé. À la base, c'était juste pour répondre à ce contrat-là, mais je n'avais pas forcément envisagé de continuer là-dedans.
D'accord.
Mais je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me plaisait parce que j'avais des potes qui travaillaient au McDo, qui travaillaient à côté pour faire pour rembourser les prêts étudiants, etc. Et moi, en soi, je me faisais même plus d'argent en étant chez moi dans mon canapé en train de travailler. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et après, de fil en aiguille, grâce au club de foot, la personne qui s'occupait des sponsors, elle avait plein de contacts qui avaient des besoins dans ce domaine-là. Donc, j'avais un porteur d'affaires, entre guillemets, attitré, qui m'a porté des clients et moi j'y répondais.
Oui, donc ce que tu dis, on a compris que tout ce que tu as fait, du coup, ça s'est construit majoritairement grâce à ton réseau, que tu as commencé majoritairement avec ton club de foot, du coup, qui t'a apporté pas mal d'opportunités après. Donc c'est vrai que c'est aussi important de souligner qu'avoir un réseau, c'est aussi très important dans le monde de l'entrepreneuriat, quoi.
C'est ultra important, le réseau. Je pense que tout seul, peut-être que j'aurais même pas eu la motivation d'aller chercher d'autres contrats que celui que j'ai eu. Mais comme là, régulièrement, il m'appelait pour faire des contrats, c'était un enchaînement qui allait tout seul. J'ai eu de la chance, je pense, vraiment, parce que c'est pas tout le monde qui se lance et qui a directement des contrats sans le chercher.
Mais
j'ai su cette chance. Et après, je travaillais à l'époque pas mal au bouche à oreille, comme je faisais vraiment des tarifs aussi pas chers, parce que j'estimais que ma formation n'était pas terminée. Donc, je pouvais pas prendre une prestation comme si ma formation était terminée. Donc, les prix étaient attractifs, ça parlait autour d'eux et ça m'a permis de faire un réseau encore plus grand.
Ok. Bah, c'est tout bénéfique.
Et après, du coup, donc ça, c'était pour devenir auto-entrepreneur. Mais ensuite, pendant donc, ma première année de master, j'ai un camarade de classe qui, lui, avait, pendant le parcours projet, créé une agence web, donc une vraie agence, pas en auto-entreprise. Puis je me suis dit, pourquoi pas, finalement, tenter l'expérience. Donc j'ai rejoint aussi l'aventure entrepreneuriale grâce à cette agence web pendant mes études.
Du coup, t'as tout cumulé.
J'ai tout cumulé, ouais.
C'est quand même assez impressionnant de voir des jeunes comme toi, Quentin, qui arrivent à cumuler plusieurs activités en même temps. Et je me demandais comment tu as eu cette idée de te lancer dans la création d'entreprise. T'as pas eu peur de te lancer directement dans le grand bain? Parce que ça représentait quand même un certain risque. La sécurité salariale ne t'attirait pas?
Alors, la sécurité salariale, si, ça m'attirait, mais c'était pas la principale préoccupation. Cette idée, en fait, c'était pendant mon alternance. Je faisais mon rôle d'alternant et ça me plaisait dans la mesure où je faisais mon activité, mais ça me plaisait pas forcément de me lever tous les matins et d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. C'est un peu bateau de dire ça.
Oui, non, mais ça peut se comprendre. Hein.
Mais c'était vraiment la situation où je voyais passer des devis d'agence web pour mon alternance qui était largement au-dessus de mon salaire. Et je me dis, mais c'est moi qui fais le travail de l'agence web et ils demandent 10 fois plus que ce que moi je suis payé. Donc je dis, pourquoi pas faire l'agence web et toucher 10 fois plus du coup sur les contrats. Du coup, je savais que c'était pas le choix le plus facile, que la sécurité salariale n'était pas là au début et que je toucherais moins d'argent que si j'étais resté dans mon entreprise au début. Mais je me suis dit que c'est maintenant ou jamais si je dois tenter. J'ai la chance du coup d'avoir fait 2 ans d'alternance, donc je peux toucher le chômage pendant que je fais une création d'entreprise. Donc j'ai un revenu minimum qui me permet au moins d'avoir mes besoins financiers. Le seul point qui m'a fait peur, c'est en fait la période actuelle parce qu'on se lance pendant le Covid et c'est vraiment pas facile. Il y a plein de personnes qui me disent « mais toi, t'es dans la bonne branche d'activité, t'as plein de travail grâce au Covid parce que tout le monde se met en ligne ». Mais pas du tout, parce que certes, tout le monde se met en ligne, mais plus personne n'a d'argent pour investir. Donc, ok, il y a de la demande, mais il n'y a vraiment pas de budget. Donc, on ne peut pas se permettre d'accepter des contrats qui nous font travailler à perte. Et quelque chose de très important qui m'a conforté dans mon choix de me lancer, c'est la personne avec qui je me suis lancé. On dit toujours qu'il ne faut pas se lancer avec un ami ou c'est compliqué de se lancer avec un ami pour travailler.
Ouais, c'est vrai.
Mais du coup, moi, j'ai fait un peu l'inverse, parce qu'en soi, donc Baptiste, qui est mon camarade de classe, donc ça s'est d'abord fait sur une entente, on va dire, amicale et professionnelle. Mais après, à force de travailler avec lui, maintenant, je lui fais confiance les yeux fermés. C'est vraiment devenu un vrai ami. Et du coup, je travaille avec un ami que je me suis fait en travaillant et pas avant. Donc, c'est beaucoup mieux pour se lancer.
Oui, c'est vrai que créer une entreprise avec un ami peut être difficile. Et c'est pour ça qu'il faut s'assurer d'une bonne entente, que ça soit professionnelle ou personnelle.
Et dans notre première émission, on avait vu qu'un des gros avantages de devenir entrepreneur, c'était d'être libre de ses décisions et de ses actions. Est-ce que toi aussi, tu l'as ressenti de ton côté? Est-ce que ça faisait partie peut-être des avantages qui t'ont poussé à choisir l'entrepreneuriat?
C'est clairement un énorme avantage. Comme je le disais au début, je voyais mes potes qui travaillaient au McDo pour arrondir leur fin de mois. Moi, j'étais chez moi. Je travaillais quand même dans un cadre, on va dire, professionnel, mais avec le confort de chez moi et en faisant quelque chose qui me plaît. Donc, c'était une liberté qui est vraiment... L'expression se lever et être content de se lever pour aller travailler, je l'avais vraiment. C'est quelque chose que je souhaite à tout le monde parce que quand on se lève et que ça nous plaît pas, c'est vraiment long les journées.
C'est clair.
Le fait d'être aussi à son compte, on organise nos journées de travail comme on veut. C'est-à-dire que si je veux commencer à midi parce que j'ai pas envie de travailler le matin et de finir à 22h, 23h le soir, je suis mon seul responsable. Donc je peux le faire. C'est quelque chose que tu peux pas faire en entreprise, arriver à midi, dire je pars à 22h. Du coup, ma passion pour le voyage aussi, elle est encore là. Là, on peut plus trop avec le Covid, mais si demain je veux partir n'importe où pour travailler, je dis n'importe quoi au Mexique, il me suffit d'une connexion Internet et je peux travailler.
Ok, donc là, on voit que quand même un gros point positif qu'on avait déjà parlé dans notre première émission, c'est quand même cette liberté de pouvoir faire ses choix, cette liberté de pouvoir organiser ses journées comme on veut. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat. Et du coup, est-ce que depuis tes débuts dans l'entrepreneuriat, tu as pu remarquer d'autres points positifs?
Ouais, il y en a plein d'autres. Donc la liberté, déjà, comme on l'a dit, le choix des conditions de travail, il y a de la satisfaction personnelle. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On sait pourquoi on travaille. Quand tu es dans une entreprise, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Tu vois passer plein de chiffres partout, mais toi, tu touches ton salaire qui t'a alloué au début du contrat. Là, tu sais que si tu fais du gros chiffre d'affaires, c'est bénéfique pour toi. Parce que c'est après, ça va être impacté sur ton salaire que tu vas te verser. Et c'est vraiment aussi très satisfaisant de se verser son propre salaire. Et un gros point fort aussi, c'est la vitesse d'apprentissage. J'ai appris Bah, ça fait déjà longtemps du coup, je fais l'auto-entreprise et l'entrepreneuriat, mais sans vouloir dénigrer le système d'apprentissage à l'école et tout, j'ai beaucoup plus appris en faisant des contrats pour des clients qu'à l'école. Ouais.
Bah, ça peut se comprendre également.
Mais du coup, il y a quand même aussi des difficultés, bah, là, qui est particulièrement liée à cette période avec le Covid, comme j'expliquais tout à l'heure. Il faut savoir gérer le fait des mois où on ne fait pas de chiffre d'affaires et que ça ne rentre pas en tension avec l'associé et qu'après, bah, ça nuise les performances d'entreprise. Il faut savoir, du coup, anticiper ça. J'ai aussi découvert, du coup, plein de procédures que je ne connais pas au niveau de l'administration française pour tout ce qui est déclaration, déclarer un salarié, l'assurer, payer les impôts. Ça, c'est pas le côté positif, mais ça fait partie du taf.
Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé du Covid, mais c'est vrai que sur le monde de l'entrepreneuriat, ça a quand même pas mal affecté certaines personnes, notamment pour la prise de contact avec les clients et pour les contrats. Donc c'est vrai que le monde de l'entrepreneuriat, comme on dit, c'est quand même pas tout beau, tout rose. Il y a aussi des inconvénients à côté des nombreux avantages qu'offre ce statut.
Oui, en tant qu'auto-entrepreneur, il y a beaucoup de choses à gérer, et ça dès le début. De ton côté, quelles ont été tes premières difficultés à affronter ?
Bah, comme je le disais, en tant qu'auto-entrepreneur, je n'ai pas eu de difficultés parce que je faisais ça en plus de mes études, donc je n'ai pas d'obligation de résultat financier, c'était juste un petit plus. Le côté administratif, en tant qu'auto-entrepreneur en France, c'est ultra simple. On se déclare en ligne, c'est fait en 10 minutes maximum. On reçoit le papier, puis on peut commencer à travailler. Après, c'est une déclaration tous les 3 mois, il n'y a vraiment rien de difficile. Mais la vraie difficulté, c'est que je rentrais chez moi après l'alternance ou après l'école et il fallait que je me relance dans une deuxième journée qui finissait des fois 2-3 heures du matin pour rendre les travaux auprès des clients, et c'était peut-être ça le plus dur. Il fallait réussir à tout gérer sans négliger un seul côté, parce que quand même quelque chose en plus. De base, je devais m'intéresser à mes études d'abord et aussi à l'alternance, parce que c'est pour ça que je suis payé. Mais comme j'ai des obligations envers les clients, je suis obligé de leur faire un travail de qualité, sinon c'est pas net de ma part. Et une fois que tu as trouvé vraiment l'équilibre, après bah, tu commences à mieux redormir parce que tu te pousses plus tôt.
Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que ton unique difficulté au départ, c'était de cumuler tes études avec l'entrepreneuriat.
À peu près, voilà.
Après, c'est vrai que malgré la fatigue accumulée due à toutes tes activités, ça te permet quand même d'acquérir beaucoup plus rapidement de l'expérience. Et c'est quand même un des gros points positifs d'être un jeune entrepreneur.
En tant que professeur, on donne beaucoup de conseils à nos étudiants pour leur vie professionnelle à venir. Mais c'est vrai que dans le monde de l'entrepreneuriat, les recommandations peuvent être différentes. Toi, Quentin, en tant que jeune entrepreneur, que conseillerais-tu aux jeunes qui nous écoutent ?
Alors, je leur conseillerais de surtout pas avoir peur de se lancer. Ne pas penser qu'être étudiant en première ou deuxième année, c'est pas suffisant pour se lancer, on n'a pas assez de compétences. C'est faux, parce que si la personne vient vous chercher, c'est qu'elle a un besoin auquel vous savez répondre, parce que vous êtes en train d'acquérir des compétences. Après, il ne faut bien sûr pas les facturer comme si vous avez des compétences de master ou plus. Il faut juste être juste dans son devis et dans ses compétences qu'on a, et honnête avec le client, c'est important. Mais il ne faut surtout pas aussi brader ses prestations. Ça m'est arrivé, ça c'est une grosse erreur que j'ai fait. Il ne faut pas hésiter à s'auto-former dès qu'il y a quelque chose qui te plaît pendant les cours. Les cours ne sont pas suffisants, ils te donnent des pistes. Après, tu dois toi-même aller approfondir sur Internet, il y a plein de matières. Il faut aussi trouver un équilibre travail et vie sociale, parce qu'à un moment, j'étais vraiment débordé par le travail et j'avais vraiment laissé de côté ma vie sociale, et on s'enferme et c'est pas bon.
Et ben, en tout cas, merci pour tous ces conseils que tu nous as donnés, Quentin. Je pense sincèrement que ça pourra en aider plus d'un qui nous écoute aujourd'hui sur Jeune Pousse.
Bah déjà, moi, en tant qu'étudiante, ça m'a permis de réaliser que je ne dois pas freiner mes ambitions et que même si je suis jeune, si j'ai l'envie et la motivation, je dois rien lâcher et me lancer. Merci, Quentin.
Du coup, merci à vous de m'avoir invité sur Jeune Pousse.
On espère qu'à travers cette rencontre avec Quentin, tu as pu prendre conscience qu'être jeune entrepreneur, ça permet d'acquérir de l'expérience très rapidement et qu'avec de l'ambition et de la volonté, vous pouvez réaliser vos projets même en étant jeune. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On te donne rendez-vous mercredi prochain à 16h pour un nouvel épisode sur Jeune Pousse.